VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 13 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 3 civils tués dans un attentat suicide à Gao, dans le nord.
En République démocratique du Congo, l'unité de l'opposition autour de son candidat unique à la présidentielle du 23 décembre prochain aura été de courte durée.
Au Tchad, les élections législatives, initialement prévues en novembre, ont été reportées.
Aux États-Unis, l'incendie de forêt qui fait rage en Californie du Nord a fait au moins 42 morts maintenant.
Au moins 3 Palestiniens et un Israélien ont été tués dans une nouvelle flambée de violence à Gaza.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, attentat suicide au véhicule piégé hier soir à Gao, dans le nord. Au moins 3 civils maliens ont été tués et 4 étrangers blessés. Ces derniers travaillaient pour un sous-traitant de l'ONU spécialisé dans le déminage, selon des sources concordantes citées par l'AFP. Cet attentat a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. Dans son communiqué, le groupe dit avoir ciblé un site regroupant des forces britanniques, allemandes et canadiennes dans le centre-ville de Gao.
Au Burkina Faso, l'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de 2015, le colonel Bourayma Kéré, a dénoncé hier à la barre le manque de fermeté de la hiérarchie militaire lors des faits, l'accusant d'avoir accompagné le mouvement. Poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre et coups et blessures volontaires, le colonel Kéré, chef d'état-major particulier auprès de la présidence, a nié les faits devant le tribunal à Ouagadougou. Même si l'armée n'a pas assumé le coup d'État, elle a accompagné le mouvement du général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau du coup et ancien chef du régiment de sécurité présidentielle, le RSP. L'unité putschiste a-t-il ajouté.
En République démocratique du Congo, l'unité n'a même pas tenu 24 heures. 2 poids lourds de l'opposition ont annoncé dès lundi qu'ils se retiraient de l'accord qu'ils avaient signé la veille pour désigner Martin Fayoulou, candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Les présidents de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et de l'UNC, Vital Kamerhe, affirment avoir reculé sous la pression de leur base à Kinshasa après l'accord surprise à huis clos à Genève avec 5 autres ténors sur le nom de l'outsider Fayoulou. Et nous reviendrons sur cette volte-face en seconde partie de cette édition.
Au Tchad, report des élections législatives initialement prévues en novembre, le cadre national de dialogue politique, le CNDP, veut renvoyer les échéances à mai 2019. Eric Manirakiza.
Plusieurs motifs sont avancés. D'abord, la mise en place du code électoral et de la commission électorale nationale indépendante. Ensuite, un recensement électoral qui tienne compte du nouveau découpage administratif. Abdraman Jansbay, membre du CNDP, a déclaré que le chronogramme sera examiné et éventuellement adopté vendredi. En revanche, un membre du gouvernement a confié hier, sous couvert d'anonymat, ne pas être certain de la tenue du scrutin en 2019 en invoquant la crise financière et le nord du pays en proie à des attaques djihadistes. Le CNDP réfléchit et discute des affaires politiques tchadiennes, composé de 15 membres de la majorité et 15 de l'opposition. Il doit notamment mettre en place la commission électorale indépendante CENI. Les dernières législatives datent de 2011. Depuis, le scrutin a été repoussé à plusieurs reprises. La troisième législature devait se terminer le 21 juin 2015, mais une loi constitutionnelle l'avait prolongée.
Au Libéria, une marche pour la justice a paralysé hier Monrovia. Des détails avec Lionel Gaïma.
À l'initiative de Campaigners and Victims for Justice, ils étaient environ 2000 à marcher lundi à Monrovia, paralysant la circulation dans la capitale libérienne. Les seigneurs de guerre et les criminels économiques doivent faire face à la justice. Pouvait-on lire sur certaines de leurs pancartes? La guerre civile libérienne a fait quelque 250 000 morts et les manifestants sont particulièrement ulcérés que des personnalités impliquées dans ce bain de sang continuent d'occuper d'importants postes politiques et économiques. La marche de lundi a conduit les protestataires tour à tour à l'ambassade des États-Unis, au quartier général de l'ONU, au bureau de l'Union européenne et de l'Union africaine. Ils ont déposé une motion à la représentation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'un des chefs de guerre libériens, l'ancien président libérien Charles Taylor, a été condamné en 2012 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Sierra Leone, mais n'avait pas été poursuivi pour ses actes de violence dans son propre pays.
En Éthiopie, le procureur général a accusé hier de hauts responsables des services de sécurité d'avoir commandité une attaque contre le nouveau Premier ministre et il a annoncé une série d'arrestations et d'enquêtes qui vont jusqu'au cœur même de l'establishment. Précision de John Linden.
Berhanu Tegay a laissé entendre que selon des témoignages, la haute direction de l'Agence de sécurité nationale a ordonné aux membres du groupe ethnique Oromo du Premier ministre Abiy Ahmed de l'attaquer lors d'un rassemblement en juin. Affirmation choquante dans un pays diversifié, récemment secoué par des affrontements ethniques. Berhanu a ajouté que dans le cadre d'autres enquêtes, des mandats d'arrêt ont été lancés à l'encontre des 36 agents de la sécurité accusés pour avoir maltraité des prisonniers et de plus de 30 responsables d'une entreprise dirigée par l'armée, entreprise au sein de laquelle l'on aurait relevé une mauvaise gestion. Les accusations contre les services de sécurité et l'OMETEC, un acteur clé dans une économie dominée par l'État et l'armée, ont touché deux des piliers du pouvoir jusqu'à la prise de fonction d'Abiy en avril dernier. Depuis, le Premier ministre a mis en place une série de réformes radicales remettant en cause la domination des services de sécurité et qui continue de remodeler les politiques mises en place depuis l'instauration de la coalition au pouvoir en 1991. Ces accusations d'attaque commanditée contre le Premier ministre interviennent alors que 63 officiers de l'armée et des services de renseignement accusés de corruption et de violation des droits de l'homme ont été arrêtés, toujours selon une annonce faite par le procureur général.
Une conférence internationale sur l'avenir de la Libye, en proie au chaos depuis 2011, s'est ouverte lundi soir à Palerme, en présence du maréchal Haftar, finalement arrivé en Sicile après un long suspense. L'homme fort de l'est du pays, qui a été accueilli par le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, et réticent à s'asseoir à la même table que certains des participants, qu'il considère comme des extrémistes islamistes, également invités à Palerme, selon son entourage.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, victoire dans l'Arizona de la démocrate Kirsten Sinema face à la républicaine Martha McSally qui tentait de succéder au sénateur sortant, le républicain Jeff Blake. Ici au Sénat, à la Chambre haute à Washington, Kirsten Sinema l'a emporté après un long dépouillement qui s'est étalé sur presque une semaine après les élections de mi-mandat du 6 novembre. C'est la première sénatrice démocrate à se faire élire dans cet État depuis 1994.
États-Unis toujours, l'incendie de forêt qui fait rage en Californie du Nord a fait au moins 42 morts maintenant, ce qui en fait l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de cet État de l'Ouest où des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Deux plus petits incendies en Californie du Sud ont fait deux morts. Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré l'état d'urgence et demandé l'aide financière du gouvernement fédéral. Le président Donald Trump a qualifié la situation de grand désastre, débloquant des fonds pour ceux qui ont été affectés par ce sinistre.
La bande de Gaza a connu une nouvelle poussée de violence hier. L'armée israélienne a riposté lourdement un barrage de dizaines de roquettes palestiniennes. Au moins 3 Palestiniens ont été tués dans ces échanges qui ont fait un mort et des dizaines de blessés côté israélien. Ces hostilités ont ravivé le spectre d'un nouveau conflit dans l'enclave, Michel Joseph.
Dans la soirée, l'aviation israélienne a détruit le bâtiment d'Al-Aqsa TV, la chaîne du mouvement islamiste Hamas. Les avions de combat, les hélicoptères d'attaque et les chars de l'armée israélienne ont pris pour cible plus de 70 positions militaires du Hamas et du djihad islamique. L'armée israélienne et la branche armée de Hamas, les brigades Ezzedine Al-Qassam, ont échangé les mises en garde musclées. Les sirènes d'alerte ont continué à retentir toute la soirée dans les localités israéliennes riveraines de la bande de Gaza. Ces hostilités surviennent après des mois de tensions, faisant redouter une quatrième guerre en 10 ans entre Israël et le Hamas. Les signes d'une possible détente s'étaient pourtant succédé ces dernières semaines dans et autour de Gaza. Sur autorisation de Tel Aviv, le Qatar a acheminé la semaine passée dans le territoire 15 millions de dollars pour payer au moins partiellement les fonctionnaires du Hamas.
Au Yémen, des combats meurtriers ont encore fait rage hier dans la ville portuaire de Hodeïda, dans l'ouest, où 150 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures. Et l'ONU et des puissances occidentales ont accentué la pression sur les belligérants pour que les hostilités cessent rapidement. Interrogé sur la possibilité d'un cessez-le-feu, le porte-parole de la coalition anti-rebelle, le colonel saoudien Turki al-Maliki, a déclaré à la presse que l'opération se poursuivait. Cette offensive, a-t-il dit, vise notamment à mettre plus de pression sur les rebelles houthis qui contrôlent Hodeïda et la capitale Sanaa, notamment, pour qu'ils viennent à la table des négociations. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Rwanda bénéficiera d'un investissement de 400 millions de dollars de la part du Fonds panafricain d'investissement Africa 50 pour financer la construction de la cité de l'innovation à Kigali, KIC. Prévue sur environ 70 hectares, à quelques kilomètres de Kigali, la KIC est un projet visant à créer un hub technologique panafricain dans le pays. Il devrait à terme créer plus de 50 000 emplois et générer 150 millions de dollars d'exportation dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, en plus d'attirer environ 300 millions de dollars d'investissements directs étrangers par an. En Côte d'Ivoire, la société française Nexans, l'un des leaders mondiaux de l'industrie du câble, vient d'inaugurer sa première usine dans la nouvelle zone industrielle de PK24, située à une vingtaine de kilomètres au nord d'Abidjan. D'un coût de 15 millions d'euros et bâtie sur une surface de 32 000 mètres carrés, cette usine à vocation sous-régionale servira à la fabrication de câbles pour bâtiments, de câbles de transport et de distribution d'énergie, de câbles pour les réseaux de télécommunications, ainsi que des transformateurs électriques et des postes de transformation électrique. Elle va générer 100 emplois directs.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Un comité de normalisation à la Fédération malgache de football.
Oui, la FIFA a décidé hier de mettre en place un comité de normalisation pour la gestion du football local. La Fédération malgache de football devait tenir son congrès électif le mois dernier, sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le comité de normalisation devra gérer les affaires courantes, dresser une liste légitime des délégués et organiser de nouvelles élections. Ce comité, dont les membres seront désignés dans les jours à venir, a jusqu'au 19 mai 2019 pour accomplir sa tâche.
Ibrahim Traoré manquera la Côte d'Ivoire.
Régulièrement absent pour cause de blessure ces derniers mois, le capitaine de la Guinée a signé son grand retour en sélection le mois dernier, mais le Sélection nationale devra faire sans l'ailier du Borussia Mönchengladbach pour le choc de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre la Côte d'Ivoire dimanche. Hier, la Fédération guinéenne a annoncé le forfait du Messi de Conakry en précisant que celui-ci traîne une blessure au niveau des adducteurs. L'attaquant d'Auxerre, Mohamed Lamine Yattara, a été appelé en renfort.
En face, coup dur confirmé pour Wilfried Zaha.
Et oui, comme pressenti, l'ailier de Crystal Palace souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et il a déclaré forfait. Le choc qui opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée dimanche à Conakry, je le disais tantôt. Pour le remplacer, le sélectionneur des éléphants Ibrahim Camara a appelé en renfort le Lyonnais Maxwell Cornet qui ne figurait pas dans la liste initiale.
En Éthiopie, Haïlé Gebrselassie a démissionné de la présidence de la Fédération d'athlétisme.
Haïlé Gebrselassie, double champion olympique du 10 000 mètres à Atlanta en 1996 puis à Sydney en 2000 et détenteur de multiples records du monde en fond, demi-fond et sur le marathon, a invoqué un incident survenu lors d'une compétition le week-end dernier, sans plus de précision pour justifier sa démission. Il était à la tête de la fédération depuis 2016. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Washington et Orlando 117 à 109, Philadelphie et Miami 124 à 114, la Nouvelle-Orléans et Toronto 126 à 110, Dallas et Chicago 103 à 98, Utah et Memphis 96 à 88, Minnesota et Brooklyn 120 à 113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Revenons sur la volte-face en République démocratique du Congo de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi, ainsi que de leurs partis respectifs, moins de 24 heures après le choix de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Que reste-t-il de la coalition de l'opposition Lamuka, mise sur pied à l'occasion de la désignation du candidat commun dimanche à Genève? L'opposition éclatée est-elle prête à moins de 10 jours du début de la campagne électorale en République démocratique du Congo? Eh bien, quelques éléments de réponse dans ce dossier d'Eddie Isango.
Pour Félix Tshisekedi, les premiers à annoncer hier, soit moins de 24 heures après, les retraits de sa signature du document désignant Fayulu, la base de son parti, a eu les derniers mots. Félix Tshisekedi.
Malheureusement, dans le rendu que j'ai fait à la base, il y a eu une réaction immédiate et sans équivoque de cette base qui m'a fait comprendre qu'elle avait rejeté avec force les conclusions des travaux de Genève. Et donc, il était tout à fait... responsable de sa visée, d'en tirer toutes les conséquences. Parce que vous savez, nous sommes à quelques jours du début de la campagne électorale et cette ambiance qui prévalait au sein du parti était très très mauvaise. Dans la mesure où il était question évidemment de reporter nos voix sur la personne du candidat commun. Mais là, on m'a fait comprendre très clairement que cela n'allait pas être possible. La base a émis le vœu de me voir continuer avec ma candidature, ce que donc j'ai fait avec fierté.
Un complot de ses pairs et une violation des accords précédents dénonce de son côté Vital Kamerhe. Il parle des rapports de force à tenir en compte, Vital Kamerhe.
Nous n'avons pas compris quand les amis ont inventé le mode de désignation des candidats commis par vote. Donc ils ont d'abord violé l'accord que nous avons tous signé, l'accord de Pretoria. Alors donc il y avait un coup fourré qui s'est préparé. J'ai dit à Félix, mon cher ami, avant de monter dans le bus, les amis nous préparent un coup fourré là-bas. Il m'a dit non, alors qu'à ce moment-là, quelqu'un, Mouzito, je crois, l'avait appelé pour dit « Non, Vital, prépare quelque chose contre toi avec Bemba. » Très bien, Félix a cru à ça. Il descend en bas, Fayulu le prend en charge. Il dit « Non, Vital, Bemba et Katumbi préparent quelque chose contre toi. » Mon ami ne me parlait plus. Nous entrons dans la salle. Moi aussi, j'étais convaincu. Il y avait quelque chose entre Félix et les autres contre moi. Ce qui fait que moi, j'ai voté pour Matungulu et Félix a voté pour Fayulu. Et nous sommes retrouvés chacun avec une voix. Et Matungulu et Fayulu sont passés au premier tour parce qu'ils ont été malicieux. Et ça, c'est mauvais en politique.
Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, comme ceux qui sont restés dans la coalition Lamuka, se disent malgré tout convaincus de remporter les élections, bien que divisés. C'est l'avis de Freddy Matungulu.
Monsieur Ramazani Shadary, c'est le représentant de tout l'échec patent de la politique de Monsieur Kabila ici en République démocratique du Congo. Nous aurions souhaité évidemment que l'opposition reste unie, mais je crois que même dans sa configuration actuelle, avec les acteurs ou les signataires de l'accord, l'opposition doit pouvoir être à mesure de gagner l'élection.
Cette confusion prend place au sein de l'opposition à moins de 10 jours du début de la campagne des élections prévues le 23 décembre 2018.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
RDC toujours, à Beni, dans l'Est, l'instabilité sécuritaire et l'épidémie d'Ebola perturbent le tissu économique de cette région du Nord Kivu, où les champs sont moins fréquentés. À ce propos, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile locale demandent au gouvernement d'alléger les taxes pour soulager les habitants. Reportage de notre correspondant Charlie Kasereka.
Au marché comme dans les magasins, les commerçants ont presque la même phrase. Tous ils disent qu'il n'y a plus d'acheteurs. Au grand marché de Beni, Marceline Kavira, revendeuse de maïs et du riz, ne sait plus où se ravitailler. Même les clients se font de plus en plus rares.
Nos clients venaient souvent de Kinshasa, Goma et Kisangani. Ils n'arrivent plus à cause des massacres ici, à Beni. Même nous, il est actuellement difficile d'aller chercher la marchandise à cause de l'insécurité sur les routes. Les dépôts sont vides alors qu'auparavant, nous manquions des places pour la marchandise.
À quelques pas de l'entrepôt de Marceline, Mohindo Mastaki demande le retour de la paix. Il est revendeur de divers produits manufacturés.
La guerre et Ebola font fuir les habitants de Beni. Avant, j'arrivais à écouler entre 6 et 10 matelas par jour. Il est difficile aujourd'hui de vendre même un matelas par semaine. D'ici peu, nous allons, je pense, fermer nos commerces. Ça ne marche plus.
La Fédération des entreprises du Congo fait qu'en sigle, les sections de Beni réclament depuis 3 ans la suppression de certaines taxes pour soulager la souffrance des entrepreneurs. Lukando Maliabwana, secrétaire de la FEC au marché de Beni, explique au micro de VOA Afrique.
Nous sommes incapables vraiment de payer les taxes de l'État suite à la guerre. Nous dépendons d'abord des agriculteurs. C'est ça l'économie de Beni. En tout cas, pour nous, la FEC marché, nous demandons aussi que la mairie ou bien notre gouvernement de baisser les taxes à nos opérateurs économiques. Les routes aussi soient en tout cas bien entretenues.
Les maires de la ville de Beni reconnaissent la situation difficile des entrepreneurs dans cette région, mais expliquent que la suppression de ces taxes entacherait le travail administratif de sa juridiction. Nyoni Bwanakawa, maire des villes.
Vous savez, la ville de Beni, le territoire de Beni sont tous à vocation agricultrice. À partir du moment où, à cause de l'activisme des EIDF, les populations ne savent plus aller au champ, il est normal que les tissus économiques en soient ainsi touchés. Une décision comme celle-là ne peut pas être sans compensation au niveau du pouvoir central vis-à-vis des entités territoriales décentralisées qui sont concernées et aussi vis-à-vis des provinces.
Avec ses 700 000 habitants, tous les villages ont été vidés de leurs occupants suite à l'insécurité et des tueries à répétition. En plus de l'insécurité, cette région est confrontée à l'épidémie à virus Ebola depuis août dernier et qui a déjà fait plus de 200 décès. Charles Kasereka, des retours de Beni, VOA. Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Niger, l'opposition a manifesté le week-end dernier pour protester contre la malgouvernance et exiger ce qu'elle appelle un code électoral inclusif et consensuel. Ce code divise en effet la majorité et l'opposition depuis 2017, année de son adoption, alors que les élections générales sont prévues en 2021. Un comité mis en place récemment pour le réviser a volé en éclats au début du mois. Retour sur cette controverse avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
En plus des dispositions relatives à la composition de la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements, pouvoir et opposition ne s'accordent surtout pas sur l'article 8 du Code électoral. Tel que rédigé, en effet, il exclut de fait de la course l'opposant Hama Amadou pour les élections de 2021, Soumana Sanda, vice-président du parti de Hama Amadou.
Je voulais dire qu'on ne peut pas faire une loi pour un seul individu. Nous avons dit, c'est vrai, comme on ne peut pas aussi faire une loi contre un seul individu. Parce que ce qu'il faut rappeler à ces niveaux, lorsqu'ils avaient accepté ce consensus sur l'article 8 de 3 ans, c'est parce qu'à l'époque, le dossier qui concerne le président du Modène F.A. Lumana, chef de file de l'opposition, le procureur avait demandé 3 ans. Le pouvoir était convaincu que le juge allait suivre le procureur sur ses réquisitions. Et le juge, au lieu de 3 ans, avait requis 1 an. Alors là, tout de suite, on a changé.
L'opposition suspend alors sa participation aux travaux d'un comité mis en place pour réviser le code électoral. Pour Bazoum Mohamed, le président du parti au pouvoir, elle n'était de toute façon pas sincère dès le départ.
Je pense que ça a été un peu le prétexte. Souvenez-vous que l'opposition n'avait pas adhéré au principe de la discussion dans le cadre de ce comité. Dans notre code électoral, depuis 1992, c'est 1 année. Lorsque vous êtes condamné à une peine d'une année, vous n'êtes plus apte à vous faire élire ni à élire vous-même. L'opposition veut que nous changions cette disposition. Notre équipe a dit que nous n'avons pas ce mandat parce que c'est une question qui n'a jamais été soulevée à l'occasion des discussions antérieures.
Les espoirs d'une reprise du dialogue politique se sont ainsi envolés, mais pour Bazoum Mohamed, cela n'entachera en rien le processus en vue des élections de 2021.
Que l'opposition participe au CNDP, qu'elle participe à la CENI ou qu'elle n'y participe pas, vraiment ce n'est pas un problème. Mais leur stratégie à eux de dire qu'ils peuvent prendre le processus électoral en otage est une stratégie erronée. Nulle part au monde, on a vu une minorité disqualifier un processus soutenu par une majorité. Parce que tout cela, en fin de compte, repose sur quoi ? Sur les lois qu'on peut adopter à l'Assemblée nationale. Or, en la matière, vous savez que nous avons toujours une majorité suffisante pour voter toutes les lois.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, Redemption Song Tour, c'est le nom d'un nouveau projet soutenu par le gouvernement italien pour sensibiliser à travers une tournée africaine les jeunes candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe et notamment l'Italie, un des principaux pays d'accueil des immigrés. À l'aide d'un film suivi de débats avec la jeunesse, la coordination du projet entend faire des propositions pour inverser la tendance. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
À travers la projection d'un film choc qui déroule les péripéties des migrants, suivi de débats avec des jeunes potentiels migrants, un important réseau d'ONG italiennes dénommé Link 2007, soutenu par le gouvernement italien, sensibilise les jeunes de la région ouest-africaine sur les dangers de l'immigration clandestine. Le but de Redemption Song, c'est de trouver des stratégies gagnantes face à cette immigration clandestine pleine d'incertitudes, explique Cléophas Adrien Diomand du groupe de travail Migration et Développement au sein du ministère italien des Affaires étrangères et responsable du projet.
Redemption Tour a comme objectif de sensibiliser contre l'immigration clandestine, de se rencontrer les différents acteurs du système de la coopération, des ONG et des associations locales pour voir de quelle manière on peut élaborer des propositions, des stratégies, surtout pour amener les jeunes à se fixer et à ne pas partir.
Grâce à Dieu que la garde côtière italienne est venue nous secourir en pleine mer. On était en perdition pour le rien.
Des images saisissantes, parfois insoutenables, apparaissent dans le film comme pour mieux frapper l'esprit des jeunes spectateurs, parmi lesquels Lassane. Ce migrant récidiviste avoue l'effet que lui a fait cette rencontre.
70% de mes idées, c'était partir à l'immigration. En août passé, j'étais au Ghana et je voulais passer par la mer de Takoradi. On avait cotisé 400 000 pour prendre la pirogue. Là, c'est mon oncle qui est un chauffeur qui m'a sauvé de la situation. Nous tentons toujours de résoudre l'Europe. Mais le film ce soir peut venir changer un peu l'idée.
Ces échanges ont emporté l'adhésion de Rakieta, qui met cependant le doigt sur certaines raisons qui amplifient l'immigration clandestine.
Il y a des jeunes sur place ici qui ont même des situations stables, mais qui décident de tout laisser tomber en pensant qu'en Europe, ça sera peut-être beaucoup mieux. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Donc les gens vont en Europe dans la clandestinité. Pour aller cumuler 2-3 métiers, ils ne vivent pas du tout. Souvent, il y a la pression aussi de la famille, de la société. Par exemple, les gens qui sont ici, même quand ça va, quelqu'un qui vient de l'Europe, on le respecte mieux que toi.
Une situation déplorable soutient Cléophas Adrien Diomand, qui en appelle à une véritable action.
Quand on voit les images qu'on voit en Libye et surtout ceux qui meurent dans les bateaux sur la mer en allant vers Lampedusa, on se rend compte qu'ici, on investit beaucoup sur place. On peut vraiment aider les jeunes à ne pas partir et éviter les drames.
Cette campagne sur l'immigration clandestine concerne 5 pays de la sous-région, considérés par l'Italie l'un des pays d'accueil, comme de hauts lieux de départ de l'immigration clandestine. Il s'agit notamment du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.